On peut développer des symptômes, un syndrome d'épuisement lié au travail lorsqu'on est déçu de ce fameux travail. Il y a certains cas où tu idéalises un peu le métier, t'as trop hâte d'y être, de t'y mettre, et une fois arrivé sur le terrain, bah malheureusement tu te prends une baffe. Et avec le temps, vu que tu n'es plus en phase avec le métier que tu as choisi, bah tu peux développer des signes physiques, des douleurs, un mal-être qui aboutit finalement à un burn-out. Aujourd'hui, c'est Armelle de Dream in Chocolate Designs, c'est une designer tricot, une ancienne infirmière qui va nous parler du coup de son mal-être au travail et comment elle en est arrivée à ce tricot, à ce design tricot. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, et ma mission c'est de vraiment de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mal-être, douleur, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Si tu veux faire le point sur ta situation, si tu veux voir où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, je t'encourage à réserver ton appel diagnostic. Ça me permettra de te poser des questions, voilà, de voir un peu les différentes sphères de ta vie. Si je peux t'aider, je te propose mes solutions. Sinon, je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode.
Alors bonjour, moi je m'appelle Armelle, j'ai 37 ans et je suis actuellement créatrice de patron de tricot et j'étais infirmière. J'ai quitté la profession il y a déjà 8 ans suite à un début de burn-out et surtout à une agression dans mon service, dans le service hospitalier dans lequel je travaillais. Et de toute façon, il était à ce moment-là très grand temps que je quitte la profession parce que j'étais en train de devenir une infirmière complètement aigrie. J'avais plus du tout de motivation pour mon travail. J'avais du mal à sourire aux patients. Je pense que j'étais à la limite de la maltraitance certaines fois, hein, avec des paroles ou un manque de temps accordé à des patients qui étaient en demande. Enfin, j'ai quitté le milieu hospitalier. J'ai essayé de faire un peu de médecine du travail pour rebondir un peu. Puis j'ai arrêté aussi très vite parce que ça ne me correspondait pas du tout. Et en fait, au moment où j'ai quitté, j'étais enceinte au tout début de ma grossesse. Et en fait, cette grossesse a été très difficile pour moi d'un point de vue psychique. Je pense que j'étais en train un peu de décompenser le fait que j'avais quitté mon travail, que je ne m'épanouissais plus. Et j'ai été très, très angoissée par cette grossesse. Alors que c'est pas dans mon schéma d'être angoissée comme ça. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai décidé de canaliser, on va dire, mes angoisses dans les loisirs créatifs. Alors même si les loisirs créatifs, ça a un peu toujours fait partie de ma vie, parce que j'ai appris à broder à l'école, j'ai commencé à tricoter, j'avais 16 ans, et j'ai débuté la couture à ce moment-là. Et ça m'a un peu aidée. Et puis, le temps passant, je me suis mise de plus en plus à tricoter. Et puis un jour, voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de toutes ces connaissances que j'avais acquises, et je me suis lancée dans le design tricot.
Et du coup, pour revenir à ton épuisement au travail, est-ce que déjà à l'époque, est-ce que tu connaissais le burn-out?
Un tout petit peu. J'avais déjà entendu ce que c'était. J'avais déjà dû voir un ou deux reportages, mais pas non plus plus que ça.
Tu penses qu'il y a eu des signes que tu avais ignorés, là, avec du recul?
Bon, déjà, j'ai quand même, dans ma carrière, beaucoup changé de poste. Je pense que c'est un premier signe, déjà, en fait. Hein. Quand on change une fois, ça va. Mais quand on change 5 fois... Et peut-être que c'est pas une question de poste, que c'est une question d'orientation professionnelle. L'un des premiers signes qui aurait dû m'alarmer, je pense, c'est que j'ai eu un lumbago. Donc j'ai eu le dos bloqué pendant 2 semaines. À l'époque, j'avais 28 ans, donc c'était un petit peu jeune quand même pour faire ce genre de problème. Et je pense que c'était déjà un signe que mon corps m'envoyait. Il est temps d'arrêter. Et en fait, donc l'agression qu'on a subie dans notre service de soins, c'est arrivé peu de temps après, donc je pense que c'était... Oui, voilà, il était grand temps. Il était grand temps.
Tu m'avais dit, juste avant qu'on lance l'enregistrement, que tu travaillais de nuit.
Oui.
Et donc, est-ce que tu avais un peu peut-être discuté avec l'administration, les cadres, le service pour voir s'il y a quelque chose à faire pour arranger la situation?
Alors, quand on a été, agressé, donc on a eu le droit à un échange avec un psychiatre. Bon, de ça, du coup, c'était plutôt très orienté sur, sur le traumatisme qu'on aurait pu subir, mais bon, c'était pas nous apporter de solutions vraiment concrètes. Après, à l'hôpital, les cadres, ils ont quand même pas beaucoup de champs d'action. Surtout que moi, j'étais dans une très grande structure, donc les étages hiérarchiques, il y en a des tonnes avant d'arriver à la personne qui peut faire quelque chose. Et puis, de toute façon, le problème des hôpitaux, de manière générale, hein, c'est que c'est des établissements qui doivent rester ouverts, accessibles à chacun. Donc, comment sécuriser un tel espace, quoi. Mon premier poste aussi, qui était aux urgences, je l'ai quitté aussi pour les mêmes raisons, parce que c'était pareil, c'était pas du tout sécuritaire. Et en fait, quand on en discute avec les cadres, la seule chose qu'ils te répondent, c'est on peut rien faire. Voilà.
Le souci avec le métier d'infirmier et toute la santé, en réalité, c'est qu'on idéalise plus le travail. On est persuadé que tout le monde est là pour être utile à l'autre, pour aider l'autre. Et après, sur le terrain, on se rend compte que finalement, c'est une administration comme une autre. Et du coup, tu te retrouves à être pressé comme un citron, à travailler pour deux personnes, à ne pas être reconnu pour le travail que tu as accompli, à avoir une paye qui ne couvre pas toutes tes responsabilités. Donc finalement, c'est pas du tout un travail valorisé. Et voilà, à chaque fois que tu te plains, la seule réponse que tu as, c'est « j'entends bien ce que tu me dis, mais je peux rien faire ». Moi, c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue. Hein. « J'entends bien là, je le supporte plus ».
Oui, moi aussi, j'ai beaucoup entendu ça.
Et tu penses que si tu n'avais pas été enceinte, tu vois, s'il n'y avait pas la grossesse, comment ça aurait été la suite?
Enfin, moi, j'ai jamais envisagé de ma vie d'avoir un boulot juste alimentaire, quoi. Il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt et de passion dans le boulot que je fais. Donc, la médecine du travail, c'est clairement... Enfin, au début, je pensais que je pourrais y trouver de l'intérêt. Je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent te permettre de trouver de l'intérêt. Donc là, moi, où j'étais, non, c'était pas du tout... Il y avait quasiment rien à faire, en fait, en tant qu'infirmière, quoi. Et du coup, je pense que oui, si j'avais pas été enceinte, j'aurais peut-être fini par essayer de retourner. Peut-être que je me serais orientée vers du soin à domicile.
Donc voilà, tu as eu des années dans le milieu médical. T'étais épuisée, t'étais fatiguée de plus en plus. Puis un jour, voilà, cette agression-là était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Mais surtout, t'es tombée enceinte. Et finalement, ça a été le moment d'introspection où tu t'es dit non, là, je reprends pas le boulot.
Ah bah, de toute façon, j'avais que ça à faire, du coup. Parce que j'ai arrêté de bosser. J'étais enceinte de 10 semaines. Donc, j'ai eu beaucoup de temps pour moi à ce moment-là. Je me suis vraiment posé la question quand elle a eu un an. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu cherché. Je m'étais même inscrite à la NPE.
Pôle emploi.
Pôle emploi, merci. J'ai un trou.
Mais avant, c'était la NPE.
Je m'étais dit... Oui, Pôle emploi, merci. Et je m'étais dit, est-ce que par là, je pourrais peut-être trouver des formations qui me permettent de me réorienter un peu. Puis voilà, quand tu dis que t'es infirmière, ils te rigolent un peu au nez. Il n'y a pas de chômage, madame, dans votre profession. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Voilà, puis en fait, du coup, finalement, j'ai dû me poser la question pendant un ou deux mois, puis après, j'ai laissé tomber.
Et tu n'avais pas pensé à d'autres métiers pour les infirmiers, genre anesthésiste, cadre, évoluer dans le métier lui-même?
Si, moi, j'avais un peu regardé aussi, mais en fait, je ne me voyais pas trop reprendre une formation... Surtout payante. Le problème, c'est faire une formation qui coûte 10 000 euros, pas envisageable de toute façon. Plus trouver une solution de garde,
ouais,
puisque du coup, Pôle emploi ne me proposait pas de solution.
Encore, c'est des concours. C'est-à-dire que tu passes le concours, il faut préparer le concours, tu as le concours et seulement après, tu vas faire l'école. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de passerelles, mais c'est vrai qu'avant... Enfin, en tout cas, l'État aime bien former un infirmier et puis que ce dernier reste dans le même service pendant 30 piges. Comme ça, il coûtera beaucoup moins. Mais ça, les, bah, c'est ça, c'est vrai, ouais. Que quand t'es infirmier, c'est compliqué d'évoluer. T'as l'impression qu'ils veulent pas que tu évolues.
Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui contribue à l'épuisement des... Enfin, je pense que ça contribue à l'épuisement de plein de professionnels. Parce que quand on n'a pas d'objectif, on peut pas se dire, bon, ok, là, je suis pas bien, mais je vais me projeter dans une évolution, dans un poste plus intéressant, ça va aller mieux. En fait, non, on peut même pas faire ça, quoi. Je vais changer de boulot, enfin, je vais changer de service, puis voilà. En fait, c'est la même problématique dans tous les services, quoi, donc...
Ouais. Mais ouais, non, mais c'est clair, t'imagines en gériatrie, passer 20 ans de ta vie en gériatrie, tu ne peux que finir en arrêt maladie ou en validité ou quelque chose comme ça.
Oh, c'est clair.
Aux urgences, tu mets 20 ans dans aux urgences, mais tu deviens aussi fou que les fous, tu vois, c'est pas du tout un bon calcul, je trouve. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes, c'est dans leur profil de rester comme ça dans le même service toute une vie. Mais c'est pas le cas de tous les infirmiers, et c'est dommage que ce ne soit pas aussi facile d'évoluer au final.
Thème veut nous voir comme des simples exécutantes, alors qu'en fait, c'est un métier finalement qui mobilise beaucoup de nos capacités. Ça demande de la réflexion, ça demande de la créativité. On fait pas qu'exécuter une prescription médicale. Ça arrange beaucoup de monde de penser qu'on fait ça. Je crois pas que ce soit la réalité de notre métier.
Je dis souvent aux gens, tu sais, que j'accompagne, ou t'as des personnes qui me disent, est-ce que t'es coach certifié? Et à chaque fois, je leur dis, non, mais je suis infirmière, en fait. Et dans l'inconscient collectif, un infirmier, il passe, il donne des comprimés et il part, visiblement.
Ouais,
alors
c'est
que.
Ça.
La base du métier d'un infirmier, c'est de motiver un patient. C'est de l'encourager, c'est de le soutenir, c'est de l'écouter. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État ne nous donne pas ce luxe. C'est devenu un luxe de pouvoir se poser au chevet d'un patient et de l'écouter et de l'encourager, tu vois, d'être vraiment attentive et bienveillante. Mais à la base, notre métier, avant même de donner un médicament ou de refaire un pansement ou de poser un injectable, c'est surtout d'observer le patient, de le comprendre et de lui donner les bons outils pour qu'il soit acteur de sa santé, qu'il prenne soin de lui, qu'il tombe pas dans un syndrome de glissement, donc il devient dépressif et compagnie. C'est vraiment de le coacher. C'est pas un terme que tu vas utiliser en formation, mais c'est ça en fait la base de notre métier.
C'est aussi un peu un métier de détective en fait. Il faut aussi que tu fasses ton enquête pour que tu apprennes à connaître ton patient, pour comprendre certaines choses, poser des questions.
C'est vraiment le diagnostic, ouais. Et donc c'est ça, c'est être observateur, poser les bonnes questions et motiver par la suite le patient. Mais c'est tout ça, c'est pas vu, c'est pas connu.
Alors je sais pas quel diplôme t'as passé, mais moi quand j'ai passé mon diplôme il y a combien de temps déjà? Bientôt 15 ans, tiens. Donc c'était l'ancienne formule, du coup on passait quand même vachement de temps sur le diagnostic infirmier, et quand tu te mets à bosser, c'est quelque chose qui n'existe presque plus en fait. Enfin, on te laisse plus le temps de faire cette partie-là de ton boulot, quoi.
Alors moi, quand je suis arrivée, j'étais la première promo sans MSP, sans mise en situation là. Mais le diagnostic infirmier, tu peux pas y échapper. C'est la base de notre métier, le fait d'être observateur, d'analyser, de faire des causes à effet, de relier des choses et de trouver les bonnes solutions. Et comme tu dis, une fois que tu arrives dans le terrain, ils veulent juste que tu sois un exécutant, et donc tu as ton tour de soins avec ton tour de médoc, tes injectables à préparer, tes pansements, courir partout. Et le diagnostic, tu dois le faire entre deux. Voilà, entre, je sais pas, ouais. En marchant ou en mangeant, j'en sais rien. Mais tu t'essaies aux toilettes, tiens. Aux toilettes, alors.
Ouais. Quand t'as le temps d'y aller. Quand t'as le temps d'y aller.
Est-ce que quand tu étais en service, quand tu bossais encore, ça t'arrivait de tricoter?
Ça m'est arrivé, oui, sur les nuits en plein mois d'août, où il n'y a pas beaucoup d'activités. Oui, ça m'est arrivé. En plus, à ce moment-là, j'avais pas mal de copines qui étaient enceintes. J'ai fait beaucoup de layettes, ouais.
Aujourd'hui, est-ce que tu utilises encore le tricot comme un outil de détente? Parce qu'au début, tu disais que pour canaliser tes angoisses, tu as utilisé la créativité, que ce soit la broderie, le tricot, la couture. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas?
Je pense que je pourrais pas m'en passer, en fait. C'est devenu... C'est devenu inconscient, en fait. C'est un réflexe, en fait. Je pense que du coup, je suis détendue aujourd'hui et plus angoissée parce que j'ai tout ça dans ma vie, en fait. Parce que je dessine beaucoup, parce que je tricote. Si j'ai pas le temps de faire l'un, faut que je fasse l'autre, quoi. Une journée sans création, c'est pas une bonne journée pour moi. J'ai commencé, comme je suis en Inde, hein, j'ai la chance de pouvoir faire du yoga facilement. Et j'ai commencé le yoga, et ça aussi, c'est génial, quoi. C'est un bon complément, en fait. Parce que du coup, c'est une activité où là, du coup, tu penses à rien d'autre qu'est-ce que tu fais avec ton corps. Et les deux ensemble, c'est top.
À préciser que le tricot et le yoga activent les mêmes hormones. Finalement, tu entretiens ton bien-être au quotidien avec toutes tes activités créatives. Et c'est ça qui fait que tu évites cette angoisse-là. En tout cas, tu évites le cercle vicieux du stress. Donc, toi, tu le fais automatiquement tous les jours et automatiquement, ça vient nourrir ta résilience. Automatiquement, ça te fait du bien et tu te retrouves plus dans des situations où tu te sens vraiment au bout de ta vie.
Je fais presque tous les soirs. C'est quand même le Netflix tricot, quoi. Avec ma petite tisane et mon carré de chocolat. Je le fais tous les jours, sauf si je vois des amis. Voilà.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne donc, qui nous écoute, qui est en burn-in ou en burn-out, c'est-à-dire qu'elle est épuisée physiquement et émotionnellement? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil?
Une des choses qui est très difficile et par laquelle il faut commencer, c'est sortir de la culpabilité. De penser que c'est ta faute, que c'est parce qu'on n'est pas volontaire. Ou... Du coup, bah, si on se sent coupable, si on se dit c'est parce qu'on n'est pas volontaire, et bah, on retombe dans le truc, on s'enfonce. Et puis, on va se dire je me suis enfoncée parce que voilà, je ne suis pas volontaire. Donc, on s'enfonce encore plus profondément. Après, quand on est comme ça, c'est très difficile de se dire qu'on réussirait à en sortir. Mais je pense qu'on a tous les clés en nous. Il faut juste pouvoir rencontrer les personnes qui nous aident à trouver où elles sont, quoi.
Et qu'est-ce que tu dirais à cette nana pour qu'elle se lance dans le tricot?
Ah bah, que c'est trop bien. Non, en fait, l'avantage du tricot, hein, je pense que c'est vraiment une activité qui nous permet au choix de plus avoir besoin de penser, c'est-à-dire vraiment d'être hypnotisé par le mouvement de nos doigts avec les aiguilles et le fil qui passe, ou alors au contraire de s'ouvrir un champ de réflexion si on a envie de réfléchir à un truc et de pouvoir se concentrer là-dessus, quoi. Le fait de tricoter, ça crée une bulle, et puis on choisit de mettre ce qu'on veut dans la bulle. Est-ce qu'on veut y mettre des pensées positives ou pas?
En tout cas, merci beaucoup, Armelle, pour ton témoignage, nous avoir partagé un peu ton parcours. Comme je dis, c'est toujours intéressant de voir que d'autres personnes ont été très mal à un moment donné, mais qu'elles ont réussi à rebondir, à remonter la pente et surtout à retrouver une vie saine. Parce que tu te dis aujourd'hui, je suis plus dans ce schéma d'angoisse, je vis ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire et que ça marche bien. Si c'est le cas, c'est parce que tu as su mettre en place des actions qui t'ont permis de sortir de ton stress et de maintenir ton bien-être au quotidien. Donc ça, c'est génial. Je trouve que c'est toujours inspirant pour celles qui se disent « Oh, je vois pas le bout du tunnel, je vais jamais y arriver, je réussis pas ». Eh bien non, il y a des personnes qui ne sont pas bien et puis un jour, elles font ce qu'il faut et puis elles s'en sortent et elles reprennent une vie saine, normale, épanouie et tout va bien, quoi. Donc c'est accessible, c'est possible. Le tout, c'est de mettre en place les bonnes actions.
C'est important de savoir qu'on peut influencer sur la façon dont on voit les choses. On ne peut pas forcément toujours influencer sur ce qui se passe dans nos vies, hein, les éléments extérieurs. Par contre, on peut toujours influencer sur la façon dont nous, on voit ces choses-là. Et du coup, ça peut changer de quelque chose de très négatif à finalement devenir quelque chose de très positif.
Bon, alors, avant de faire le récap de cet épisode, je voulais juste dire que l'enregistrement a été mouvementé. Il y avait les enfants, moi de mon côté, et puis la connexion, il y avait un décalage. Du coup, voilà, j'ai édité du mieux que j'ai pu pour que ce soit agréable à écouter et j'espère que ce fut le cas. Mais ce qu'on peut retenir du partage de Armelle, de son témoignage, c'est les erreurs de parcours, ça arrive, qu'avec le temps on évolue, donc au moment où on choisit son métier et au moment où on le fait pleinement et puis on se rend compte que finalement c'est pas exactement ce qu'il nous faut, il nous satisfait pas, on n'a pas envie de se lever le matin pour y aller et puis on n'est pas très ravi le soir quand on fait le bilan de sa journée. C'est des choses qui arrivent, mais heureusement ce n'est pas fatal. Il est toujours possible de se réorienter, de se reconvertir, de se trouver un autre travail qui est épanouissant, qui est passionnant, parce que nous n'avons qu'une seule vie, ce serait fort dommage de la gâcher comme ça, entre guillemets, à faire un travail alimentaire qui nous rend malheureuse. Certes, tout n'est pas facile. Je dirais que peu de choses sont faciles en réalité dans la vie. Même les choses les plus simples, des fois, elles sont difficiles à mettre en place. Mais il n'empêche qu'il y a des solutions. Des fois, tu sais que le chemin va être long, qu'il y aura beaucoup de paperasse, des entretiens, des appels téléphoniques, des trucs à remplir, des machins à envoyer. Voilà, tu sais que la route risque d'être longue, mais la finalité en vaut la peine. Comme on dit souvent, pour atteindre un objectif, il faut apprécier chaque étape qui te mène vers cet objectif. Tu as forcément les ressources pour y arriver. Mais comme elle le disait, il faut des fois être accompagné par des personnes qui vont t'aider à trouver ces fameuses ressources qui vont te permettre d'y arriver. Et la créativité fait partie de ces ressources. Je le dis, je leur dirai toujours, de toute façon ça fait partie de l'ADN de Boost Ton Feeling Good. La trichothérapie, c'est un outil qui a fait ses preuves et qui vraiment permet de booster l'estime de soi, de méditer, de mettre de l'ordre dans sa tête, d'apprendre un peu l'auto hypnose, de prendre du temps pour soi, et le fait de nourrir ce bien-être au quotidien va venir nourrir ta résilience qui va te donner cette force mentale pour affronter ton quotidien et aller au bout de tes objectifs, que ce soit éviter un burn-out, te reconstruire après un burn-out, changer de boulot, se lancer dans une activité qui t'intéresse. C'est des petites actions au quotidien qui vont créer les grandes actions. En fait, c'est vraiment l'effet cumulé. Être à l'écoute de soi permet de savoir si tu es au bon endroit ou pas, si le travail te plaît ou non, si tu as envie de le changer. Si c'est le cas, prends ton courage en main et mène les recherches et les démarches nécessaires pour avoir un travail qui te fait plaisir, parce que tu y passes un sacré temps dans la journée, et ça fait partie, ça prend plus de la moitié de ta vie, donc faut vraiment que ce soit quelque chose qui t'apporte un bien. Si c'est pas le cas, ça veut dire que ça contribue à ton mal-être, et ça, tu dois pas le permettre. Et enfin, les ressources ne viendront pas de l'extérieur, c'est-à-dire que personne ne va venir te sauver, tout est en toi, c'est juste que c'est difficile de trouver les clés quand on est dans le brouillard, et c'est pour ça que tu as besoin d'une personne tierce, voilà, d'un point de vue objectif, impartial, qui va venir te guider et dissiper ce fameux brouillard. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux me laisser un avis, me dire par exemple ce que tu as pensé de cet épisode, je le lirai au prochain podcast. Tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, et puis tu peux le partager tout partout autour de toi pour qu'il soit accessible à ceux qui en ont besoin. Si tu as besoin de plus d'infos, si tu veux qu'on échange au sujet d'un épisode précis, je te renvoie vers Instagram. Tu peux tout m'écrire dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, eh bien, booste ton feeling good.